Et ce soir, notre sujet, en fait, on vous demande, connaissez-vous des gens en détresse, que ce soit de la détresse mentale, psychologique? Qu'est-ce que vous avez fait pour les aider? Évidemment, on est en lien avec cet autre drame familial, ou si vous préférez, le familicide qui est survenu hier en Outaouais, où deux fillettes de 3 et 5 ans ont perdu la vie. C'est leur père qui s'est ensuite suicidé. Bref, la détresse psychologique, notamment chez les hommes, on en parle pas beaucoup. Et d'ailleurs, il y a Mathieu Simoneau-Gagnon qui m'a interpellé il y a quelques jours dans un message sur Messenger en me disant « J'aimerais beaucoup te parler de ce qui se passe avec la détresse psychologique. Moi-même, j'en ai vécu et j'ai trouvé que ça serait une bonne façon de commencer cette tribune-là en invitant Mathieu Simoneau-Gagnon à nous jaser, à témoigner justement de ce qu'il a vécu. Bonjour. Dans un premier temps, je vais vous dire, on va se tutoyer parce qu'on s'est parlé cet après-midi puis on s'est dit « Bon, on va se tutoyer en onde. » Alors, bonsoir Mathieu.
Bonsoir Valérie.
Dis-moi, quand tu m'as écrit pour parler de détresse psychologique chez les hommes, tu as dit que c'est vraiment un sujet qui est tabou et tu avais envie qu'on y donne de la place à ce sujet-là.
Exactement, parce que moi, dans les derniers mois, j'ai vécu une dépression. Donc, je m'en sors tranquillement pas vite actuellement. J'ai été chercher de l'aide et je me suis rendu compte que, au masculin, la détresse psychologique, c'est encore tabou. Puis moi, j'ai décidé de ne pas me cacher puis d'en parler.
Et toi, dans ton cas, c'est important de le mentionner, c'est pas une histoire de violence, là, c'est vraiment...
Non, pas du tout, pas du tout. Moi, c'est, écoute, j'étais complètement épuisé. Il y a plusieurs choses qui sont passées durant les deux dernières années, dont un accident qui m'a laissé quelques traumatismes. Puis, par la suite, j'ai deux oncles qui se sont enlevés la vie dans la dernière année et demie. Alors, ça m'a beaucoup attristé. Il y a d'autres choses aussi qui s'est passé là. Alors, un épuisement, l'accumulation de plusieurs choses a fait que j'ai dû aller demander de l'aide et un soutien psychologique pour m'en sortir.
Mais Mathieu, quand est-ce que tu t'es rendu compte, toi, que finalement, ça n'allait pas du tout? Comment étaient tes journées? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont dû changer, j'imagine, dans ton état d'être et d'esprit?
Depuis les deux dernières années, je te dirais que ça allait pas bien. Puis, tu sais, à un moment donné, on ignore les symptômes. Hein. Ça peut être de l'anxiété qui est augmentée, la perte d'appétit, la difficulté à dormir. Mais ça, j'ai ignoré tout ça, moi, dans les deux dernières années, en me disant que j'étais probablement capricieux, qu'il y en avait des pires que moi, puis que je devais continuer et me botter le derrière, en bon français, là, pour me lever le matin et continuer, mais à un moment donné, au niveau physique, ça fonctionne plus. Hein. Mm-hmm. On veut se botter le derrière, on dit qu'on n'est pas si pire que ça, qu'il y en a des pires que nous, mais on n'est pas capable de se lever le matin parce qu'on n'est plus capable psychologiquement. C'est pire qu'une fatigue physique, là. C'est une fatigue corporelle entière à nous rendre complètement dysfonctionnels pour les tâches au quotidien.
Mais là, est-ce qu'il y a le petit orgueil mâle qui entre en ligne de compte en se disant, ben voyons donc, qu'est-ce qui m'arrive, là? Ça n'a pas de sens.
Oui, là. Oui, beaucoup. En me disant que ben je suis peut-être faible, je me botte, j'ai peut-être plus d'énergie parce que je fais de l'apitoiement, je joue peut-être à la victime. Ça, c'est toutes des choses que je me disais. Puis, je l'ai caché pendant à peu près 2 ans, là, en disant que tout allait bien, là. Mais au mois de juin, là, j'ai frappé mon mur, honnêtement, là. C'est là que j'étais... J'ai éclaté complètement en sanglots et je me suis écroulé. J'étais vraiment dans tous mes états. Puis là, c'est là que j'ai décidé d'aller demander de l'aide. Puis c'est la plus belle chose que j'ai fait.
OK. Comment, justement, quand on demande de l'aide comme ça, t'es allé frapper à quelle porte au départ?
Je suis allé voir mon médecin de famille.
OK.
Qui est la porte d'entrée. Après ça, j'ai consulté un thérapeute.
Oui.
Puis que je consulte toujours et que j'ai l'intention de consulter pendant plusieurs années à venir parce que c'est la santé mentale d'aller chercher de l'aide, de consulter puis d'essayer de voir qu'est-ce qui va pas pour faire les affaires différemment afin de ne pas retomber là, dans le même pattern. Puis aussi, ce que j'ai fait, j'ai décidé de ne pas me cacher. J'ai fait une publication sur Facebook en disant ce que je vivais. Puis c'est incroyable le support que j'ai eu. J'ai eu des confidences de plein d'hommes, plein de femmes qui m'ont dit qu'ils avaient vécu ce que j'avais vécu, mais qu'ils n'avaient pas le courage d'en parler. Et puis, la vie est beaucoup plus facile pour moi depuis que j'ai publié ce post Facebook-là au mois d'août. Les gens sont très empathiques, très compréhensifs. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un bel entourage en partant. Alors, ça facilite les choses. Un employeur qui est très, très conciliant. Une famille exceptionnelle, des amis exceptionnels. Alors, ça, facilite beaucoup là, le passage vers le rétablissement.
Est-ce que tu avais peur, Mathieu, justement, que de te dévoiler de cette façon-là, que ça fasse en sorte que le regard des autres change autour de toi?
Je te dirais que je l'ai eu peut-être 10 minutes, là, parce que je me suis dit, à un moment donné, il faut arrêter de se cacher, puis surtout les hommes. Hein. Mm-hmm. C'est tabou encore, puis j'ai des confidences d'amis qui viennent me voir en me disant qu'ils font de l'anxiété, qu'ils sont complètement désemparés par une situation X, Y, Z, puis... Non, je pense qu'il faut en parler. Il faut continuer à aider les hommes. Puis là, je néglige pas, je veux pas diminuer les femmes, mais on dirait que dans le sens que tu sais, les femmes s'expriment plus facilement, les femmes sont plus vont chercher de l'aide plus facilement. Puis ça, c'est des données hein, qui disent que les hommes sont plus refermés puis ils vont pas chercher de l'aide. Fait que c'est pour ça que j'encourage beaucoup à parler. On n'est pas fait. On n'est pas.
Non, c'est ça. C'est pas parce qu'on parle de nos émotions qu'on se reconnecte avec soi-même que c'est un signe de faiblesse.
Puis exactement. Puis les femmes, là, ils apprécient ça d'avoir un homme dans leur vie qui va montrer une certaine vulnérabilité. Parce que ça fait pas nous autres qu'on est moins masculin, là. Ça fait pas nous autres qu'on est plus faible, là. Les femmes, ils apprécient ça. Un homme qui s'exprime, qui va chercher de l'aide. Ça prend une grande maturité émotionnelle pour faire ça. Et moi, c'est mes amis qui m'ont dit ça, là, mes amis au féminin.
Tu as tout à fait raison, Mathieu. Écoute, j'aimerais, si tu avais un message à lancer à quelqu'un là, qui est chez lui, qui est peut-être dans l'état où tu étais, toi, au mois de juin dernier, puis qui se dit, là, il n'y a comme pas de solution, ce serait quoi?
D'aller voir son médecin de famille, de parler à un ami, de faire n'importe quel geste qu'il croit bon pour lui. Puis ça, c'est la porte d'entrée pour aller chercher de l'aide, puis voir... le soleil, tu vas me dire c'est un peu quétaine là, de dire ça, mais c'est carrément ça. Mm. De revoir le soleil dans ta vie. Là.
Merci beaucoup, Mathieu Simoneau-Gagnon. Vraiment, merci de ton temps, puis merci de t'être ouvert comme ça. Je suis certaine que ton message, ça va aider des hommes
merci
et des femmes
Valérie
qui vivent la même chose.
Merci Valérie de ton ouverture aussi à avoir accepté. Là. Je te remercie infiniment, c'est très apprécié.
Merci, bonne soirée.
Bye-bye.
Si ça vous tente de communiquer avec moi, de nous jaser ce soir, on vous pose la question, connaissez-vous des gens en détresse? Qu'est-ce que vous avez fait pour les aider? Les numéros de téléphone pour nous joindre, 514-790-9850 ou encore le 1-866-790-9850. Mon invité ce soir, le psychologue Pierre Faubert, qui est au bout du fil. Monsieur Faubert, bonsoir.
Oui, bonsoir, Valérie.
J'aimerais vous entendre, en fait, votre réaction à propos du témoignage de Mathieu.
En fait, c'est très positif. C'est une personne qui est allée faire exactement ce qu'il dit, c'est-à-dire est allée chercher de l'aide. Il sentait sa détresse, il voyait qu'il devenait de plus en plus dysfonctionnel dans sa vie. Et donc, il a fait la bonne chose. Quand on a faim, on va manger. Hein?
Ouais.
C'est instinctif. Et je pense que c'est la même chose pour la santé mentale. Lorsque nous sommes en détresse, eh bien, il faut aller consulter. Maintenant, si je regarde dans ma propre pratique, je suis pas sûr que ce qu'on dit, surtout là, actuellement par rapport aux hommes, est tout à fait juste. Si je regarde simplement cette semaine sur toutes mes rencontres que j'ai eues jusqu'à maintenant, eh bien, la majorité sont des hommes.
Ah oui,
et
hein?
Oui, il y a de plus en plus d'hommes qui consultent et on entend même des témoignages des sportifs comme Jonathan Drouin et d'autres mm-hmm. qui ouvrent des portes. Hein? C'est des personnes qui sont appréciées, qui sont admirées et qui font des choses qui sont quand même valorisées dans notre société. Alors quand une personne comme Jonathan Drouin, Stéphane Richer et d'autres personnes s'exprime et ça peut être dans n'importe quel domaine aussi, ça peut être dans le domaine des arts, ça peut être dans le domaine de n'importe quel milieu. Lorsqu'on souffre, il y a aucune raison pour laquelle on devrait accepter de souffrir. Le fait d'accepter de souffrir, c'est en soi un trouble. Hein? On appelle ça du masochisme.
Ah oui.
Mais on ne devrait pas... Ou en tout cas, et comme votre question de ce soir est bien posée, si on détecte que dans notre entourage, il y a des personnes qui semblent souffrir pour toutes sortes de raisons, eh bien, il ne faut pas hésiter d'approcher ces gens-là de façon évidemment délicate et dans la mesure où on les connaît en les abordant avec ce qui les intéresse, mais c'est de les inciter, de les encourager, même de les accompagner. Il y a pas de honte à accompagner quelqu'un, que ce soit un enfant, un adolescent, un adulte, une personne âgée. J'en reçois de toutes ces catégories dans mon bureau et je pense que la plupart des psychologues, sinon pas tous les psychologues, sont ouverts à ce que il y ait le plus de liberté d'expression possible. C'est dans la mesure où on peut s'exprimer librement, sans censure et dans toute confiance et en confidentialité que nous nous ouvrons. Quand on sait que la personne écoute et qu'elle est authentiquement intéressé, c'est pas parce qu'on est payé qu'on écoute, hein. Il y a des gens qui disent ça, vous écoutez oui. parce que vous êtes payé. Non, c'est pas, je doute qu'il y ait un 0.5% de psychologues qui sont comme ça. Je ne le crois pas. Et nous sommes tous vraiment intéressés. Nous écoutons activement. Nous avons nos émotions. Mm-hmm. Je vous dis, il m'est déjà arrivé d'être ému, de pleurer même avec des gens qui me racontent des choses qui sont absolument triste.
Ouais, non, c'est ça.
J'avais dans mon bureau ce matin une petite fille de 9 ans et j'étais ému par ce qu'elle me disait. Vous savez, les gens sont tellement démunis parfois, sont tellement sans défense. Et en psychologie, ce que nous essayons de faire, c'est d'abord de révéler ou d'aider les gens à devenir plus conscients de leur inconscient. Ça, je pense qu'il faut savoir que dans nos vies, il y a beaucoup de décisions, beaucoup de choses qu'on fait qui sont beaucoup influencées par ce que nous avons dans notre inconscient, qui est en fait une accumulation de tout ce que nous avons vécu, même depuis notre conception. Il y a des études à Harvard qui sont faites sur comment les fœtus, les bébés peuvent avoir des réactions.
Ben oui,
j'en ai rencontré des gens comme ça qui ont vécu des traumatismes intra-utérins et qui en ont subi les conséquences et il faut aller jusque-là. Alors, vous savez, il n'y a pas de tabou.
Non, c'est ça. Puis vous dites, et vous l'avez dit, là, vous aviez une patiente de 9 ans dans votre bureau, donc il n'y a pas d'âge pour aller chercher de l'aide.
Non,
écoutez,
Monsieur
Faubert, on va s'arrêter un instant. On vous garde avec nous. On va aller à la pause et au retour, évidemment, on va prendre vos appels. Je vois que les lignes sont pleines. On va jaser avec des gens, puis on va vous reparler, Monsieur Faubert, si vous voulez bien. Alors, si vous voulez vous joindre à la discussion, la question ce soir, connaissez-vous des gens en détresse? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour les aider? 514-790-9850, 1-866-790-9850. Sujet très important ce soir. J'en conviens, c'est pas le plus gai, mais je pense que ça fait une différence d'en parler, de parler de détresse psychologique. Et Maxime Lachance, t'as des réactions à nous faire entendre.
Denis nous a écrit « Moi, ma dépression a été causée par des problèmes de sommeil. Je souffrais d'apnée du sommeil. On m'a traité et maintenant, tout va bien.
Ah. » Ben c'est vrai que le manque de sommeil, ça fait en sorte qu'on devient plus irritant, puis tout ça.
Ça a une grande incidence sur nos vies. D'ailleurs, si vous vous sentez interpellé par le sujet, si vous avez besoin d'aide, je veux juste vous rappeler que l'Association québécoise de prévention du suicide, il y a une ligne directe à laquelle vous pouvez téléphoner, le 1-866-APPEL. Et si vous voulez joindre la discussion, vous pouvez le faire via téléphone. Montréal, 514-790-9850. Partout au Québec, 1-866-790-9850. Et par texto, 98985.
Merci, Maxime. On va jaser avec Valérie qui est là. Bonsoir, Valérie.
Salut, ça va bien?
Ça va bien, vous?
Oui, très bien. Écoute, premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que je félicite Jonathan Drouin, du Canadien de Montréal,
oui,
d'avoir abordé sa maladie. Ça fait en sorte de démystifier l'anxiété et les problèmes reliés à ça. Bravo. Moi, je suis un TDAH avec l'anxiété. Mon mari a de l'anxiété. Et mon fils, naturellement, comme c'est un peu héréditaire, a fait plusieurs crises d'anxiété. La dernière, il voulait gérer ça lui-même. Il voulait pas qu'on aille chez le médecin avec lui il y a 19 ans. Alors, on l'a envoyé chez le médecin. La même journée, il m'appelle. Et là, si je vois pas un thérapeute aujourd'hui, je sais pas, ou d'ici deux jours, je sais pas ce qui va m'arriver. Alors, ma réaction a été, comme il était en crise, moi, je peux pas l'aider, je suis sa mère. Mm. Son père, même s'il est très présent au niveau de l'anxiété, on a géré ça tout le long de notre relation de couple, ça fait quand même 25 ans. Et puis, j'ai dit, va à l'hôpital, fais-toi servir. Je lui ai posé la question, s'il en avait parlé au médecin qu'il avait vu le matin même, il m'a dit non.
Ah oui. Hein?
Jacob, c'est important que tu. Mais c'est un peu une personne privée, alors j'ai dit, faut que tu y ailles, faut que tu dises au médecin comment ça se sent, comment tu te sens. C'est un peu ce qui manque, je trouve, de nos garçons. C'est pas parce que je suis pas ouverte, que je suis fermée à l'idée, que son père est fermé du tout. C'est un peu, la société qui impose peut-être ça à nos figures masculines de s'exprimer puis d'être capable de digérer face à une inconnue nos émotions, de la façon dont on se sent. C'est pas facile.
Non, mais puis même, je pense, Valérie, puis vous me le direz si c'est comme ça, là, mais moi, j'ai un garçon de 17 ans, puis je suis certaine que même avec ses amis, il exprime pas tant que ça ses émotions. Là.
Non, pas du tout, sauf que parmi sa gang de chums, il y a quelqu'un qui est bipolaire, qui a dû quitter l'école. Fait qu'on a toujours été très proche de ça. Mm. Donc, ça fait en sorte qu'il est peut-être plus ouvert, mais encore là, il n'ira pas parler à ses chums de ce qu'il vit. Là.
Non, c'est clair, ça.
Là. Ça reste maman, papa, puis même là, des fois, la relation est difficile. Sauf que maintenant, je suis contente, il se prend en main, puis il essaie du mieux qu'il peut de gérer tout ça. Là. C'est pas évident.
C'est pas évident. Mais c'est ça, ça va l'accompagner toute sa vie. Merci beaucoup, Valérie, de votre témoignage.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Monsieur Faubert, je rappelle que vous êtes psychologue pour nos auditeurs et quand on entend le témoignage de Valérie, c'est ça, gérer ça lui-même, c'est l'anxiété, c'est le mal de cette génération-là, mais il y a beaucoup de gens qui sont anxieux avec anxiété de performance, puis tout ça, ça prend beaucoup de place.
Oui, ça prend énormément de place, mais je pense qu'il faudrait pas oublier que l'anxiété, ça fait partie de la vie aussi.
Ouais.
Si on pense... enlever toute anxiété et qu'on va se croire bien, mais je pense que c'est peut-être un symptôme de mort, c'est qu'on est mort. C'est tant qu'on est vivant, on peut être stressé, on peut être anxieux, et c'est vrai que c'est inconfortable, mais d'une certaine façon, ça veut dire qu'on est vivant et qu'on a des défis, on a des demandes, on a des personnes avec lesquelles on est en relation, c'est pas toujours facile. Vous savez, il n'y a pas de paradis, ça n'existe pas, là. Ça existe dans les mythes. La réalité, c'est que la vie n'est pas facile. Nos relations sont pas faciles. On interprète la réalité. On a parlé de perception tantôt. La perception de la réalité, c'est subjectif, c'est propre à chaque individu. Moi, je peux vous dire quelque chose, vous allez comprendre d'une certaine façon, une autre personne à côté de vous va comprendre probablement différemment de vous, comment interpréter ce que je viens de dire. Alors donc, c'est avec ça qu'on doit, comme on dit, dealer. C'est qu'il y a peut-être, il y aurait avantage d'avoir peut-être des cours dans les écoles secondaires en psychologie adaptés aux étudiants et étudiantes en secondaire, mais je pense que ça vaudrait la peine de dédramatiser, de dédiaboliser certains inconforts et certains troubles que nous pouvons vivre et d'essayer de voir que l'anxiété, c'est un signal. C'est comme notre signal de notre alarme de fumée. Mm-hmm. Nous en avons besoin. Tous les pilotes, ils vont vous le dire, avant de partir, avant de prendre leur envol, ils vont vérifier tous les systèmes d'alarme dans l'avion, dans le cockpit, pour voir s'il n'y en a pas un qui fonctionne pas. S'il y en a un qui fonctionne pas, on part pas. Alors donc, on a des systèmes d'alarme en nous qui sont naturels et il faut les écouter. Si on veut éradiquer le stress et l'anxiété, on est en train d'éteindre notre alarme de fumée. Ce qu'il faut faire, c'est aller voir où est le feu.
Mais dites-moi, M. Faubert, quand on regarde aussi avec la pandémie, parce qu'avec l'arrivée de la pandémie il y a 18 mois, là, on s'est mis à faire des études, puis on s'est rendu compte qu'il y a de la détresse psychologique chez les travailleurs, il y a de la détresse psychologique auprès des hommes. Les jeunes ont vécu ça difficilement. C'est comme si, finalement, le mot détresse psychologique a pris beaucoup de place dans les derniers 18 mois. La pandémie a mis ça en surface.
Oui, exactement. La pandémie, c'est une révélatrice de beaucoup de choses.
Oui.
Et je dirais tant mieux si on en parle. Et je le vois dans ma pratique, et je pense que la majorité des psychologues vont vous dire qu'ils n'ont jamais été aussi occupés que maintenant. C'est pas à cause de la pandémie directement, mais la pandémie est une condition qui fait en sorte que les gens ont peut-être un petit peu plus de besoin de faire de l'introspection, de comprendre pourquoi ça va pas, On est confiné, on a été confiné, on est un peu moins confiné maintenant, mais on a été beaucoup confiné. Et donc, ça veut dire qu'on était dans une espèce de face-à-face avec l'autre. Vous savez, le travail, c'est important dans la vie, mais ça peut aussi être une façon d'éviter les relations avec les personnes qui nous sont les plus proches.
C'est vrai.
D'ailleurs, on le voit, quand les gens prennent leur retraite, même il y en a qui ont beaucoup d'angoisse, c'est pas tout à fait la même chose que l'anxiété, mais beaucoup d'angoisse face à la retraite, parce que là, tout d'un coup, ils vont se retrouver face à face avec la personne, les enfants sont partis, etc. Mm-hmm. Et donc, ça crée des peurs, des vraies peurs. La peur, c'est pas le problème, c'est ce qui cause la peur. Hein? On mélange beaucoup les symptômes et les causes. Hein? Hier, j'avais des médecins dans mon bureau, puis ils le savent très bien. Je leur ai dit, tout ce que vous m'avez dit, ce sont des symptômes. Et ils comprennent ça. Mm-hmm. Ce qu'il faut aller voir,
ce sont les causes.
Ben oui. Et parce que, vous savez, parfois, on veut se contenter d'éliminer des symptômes. OK, on parlait tout à l'heure de manque de sommeil et même l'anxiété. Mais le problème, oui, le problème du sommeil, c'est important. Sauf que c'est pourquoi que la personne ne dort pas.
C'est ça.
Je comprends, aller voir. Ah, si on veut régler le problème de sommeil, on va lui donner du somnifère, mais ça ne règle pas le problème. Pourquoi la personne ne dort pas?
C'est de trouver la cause. Ben merci beaucoup de votre temps ce soir, Pierre Faubert. Je rappelle que vous êtes psychologue. Merci de nous avoir éclairés. Puis, faut pas hésiter à aller chercher de l'aide, d'aller vous voir, notamment, là, si on a besoin de vos services.
Absolument.
Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir, Valérie. Bonsoir et bonsoir à tout le monde qui écoute. Et puis, comme vous dites, faut pas hésiter.
Merci. On va discuter avec Marcel maintenant, qui est au bout du fil. Bonsoir, Marcel.
Bonsoir.
Alors, de votre côté, est-ce que vous connaissez des gens en détresse? Est-ce que vous avez fait quelque chose pour les aider ou c'est vous qui avez eu des petits problèmes?
C'est les deux.
C'est les deux.
J'avais une conjointe qui, malheureusement, avait combattu un cancer du poumon.
OK.
Par contre, elle n'a plus jamais été la même personne. Quand moi, je l'ai connue, je n'ai pas connu sa période cancéreuse. Je l'ai connue par après. Elle manquait de force. Et ça la décourageait. C'était une femme brillante, mais à un moment donné, quand ça faisait 3, 4, 5, 6 mois qu'elle avait un travail, elle finissait par démissionner parce qu'elle n'avait plus la force physique de continuer. Et à ce moment-là, tombe en dépression.
Puis qu'est-ce que vous avez fait, vous, à ce moment-là, Marcel?
Je l'ai supporté tant que j'étais capable, madame. Elle en est devenue suicidaire, elle s'est suicidée.
Ah, mon Dieu.
Je me suis vu un matin, puis je ne le trouvais pas dans le lit, je l'ai trouvé pendu dans le locker de l'appartement.
OK.
Ça fait fort.
Ben, je comprends.
Mais je me suis jamais rendu responsable de son décès. Je n'ai pas considéré ça comme un échec. Moi, je ne suis pas un psychologue. J'étais son amour, puis j'essayais de l'aider comme je pouvais. Mais je peux vous dire que ça fait ça.
Ça fait combien de temps de ça, Marcel?
5 ans.
Fait que j'imagine que vous devez être assez attentif aux signes ou vous devez partager le message autour de vous à dire, écoutez, le suicide, c'est une solution. En fait, c'est un problème. Quand on a des problèmes, on dit c'est temporaire, mais ça, c'est la solution ultime. On ne veut pas arriver là. Tout se règle dans la vie.
Exact. Mais moi, j'ai été chanceux. En quelque part, là, j'ai été chanceux. Quand l'identité judiciaire a fini par laisser l'appartement, parce qu'évidemment, j'étais sous enquête.
Ouais,
il y avait 8 morts, puis j'étais la seule personne qui était là. Fait que ça a été un avant-midi assez pénible, merci. Par contre, dès qu'on est rentré dans la maison, j'étais avec ma sœur qui m'a épaulé. J'ai reçu un appel, et c'est un médecin. Ça faisait 4 ans que j'attendais d'avoir un médecin de famille. Et la secrétaire m'a eu un rendez-vous pour le lendemain. Et ce médecin-là, docteur Veilleux, c'est une femme formidable.
À vous aider.
Si je suis toujours en vie aujourd'hui, elle n'est responsable.
Non, c'est
elle a pris, elle a pris le temps de me regarder, elle a pris le temps de me dire, écoutez, on travaillera pas sur le physique, là, on va travailler sur le mental ensemble.
Mm-hmm.
Et ça a été un guide pour moi. Ce qui vous attend, là, ça va être telle étape, telle étape, telle étape.
Donc, vous avez passé à travers toutes ces étapes-là.
Oui. Ben, la seule place où on est en désaccord, c'est quand elle m'avait dit que je devais voir un psychologue, puis j'ai fait non. J'ai déjà ma famille, j'ai déjà mes amis, je suis déjà bien entouré. Et la remarque qu'elle m'a faite avec un grand sourire et très calmement, ça a été « Écoutez, eux sont impliqués émotivement avec vous.
Ouais.
Le psychologue ne l'est pas. Il peut vraiment vous aider. » Alors, dans les 4 mois qui ont suivi, une semaine, j'allais voir mon médecin, puis la semaine d'après, j'allais voir la psychologue, puis oui, je m'en suis sorti comme ça. La seule chose qui reste, c'est que je suis plus fragile que je l'étais.
Ouais.
Quand il y a de la pression, là, ma résistance est plus qu'elle a déjà été.
Ben, avec ce que vous avez vécu, Martien, je pense que c'est très compréhensible. Merci beaucoup de votre témoignage ce soir. Merci de vous être ouvert comme ça.
Ben, moi, ce que je voulais amener, c'est laisser faire le côté macho, les gars, là. On a besoin d'aide à un moment donné, on va le chercher. C'est important d'avoir un bon médecin, c'est important d'avoir un psychologue quand on ne va pas. N'hésitez pas.
C'est bon, le message est passé. Merci Marcel.
Merci.
Bonne soirée. Et il y a Mario qui nous écrit, qui dit « Cher Valérie, ce que tu cherches, c'est une solution permanente à un problème temporaire. » C'est ce que je voulais dire quand on parlait du suicide, évidemment. On s'arrête un court instant, 19h34. Au retour, évidemment, on va vous jaser si vous avez envie de partager avec nous. Connaissez-vous des gens en détresse? Qu'avez-vous fait pour les aider? 514-790-9850 ou encore le 1-866-790-9850. Et notre sujet ce soir pour notre tribune, connaissez-vous des gens en détresse? Qu'est-ce que vous avez fait pour les aider? Maxime Lachance, tu as des commentaires à nous lire.
Chaque fois que l'automne arrive, la baisse de la clarté apporte son lot d'anxiété, stress, peur. Moi, les saisons m'affectent personnellement.
Oui, ouais, le changement d'heure.
Oui, le changement d'heure. On parlait du printemps qui est arrivé hier. Donc, l'arrivée... En plus, on perd de plus en plus de minutes à chaque jour.
Le printemps qui est arrivé hier?
L'automne.
OK.
Je me suis trompé de saison. Ça fait plus d'un an que je cherche de l'aide. Je ne trouve que des listes d'attente. Je ne sais plus où regarder l'accès à l'aide aussi. Ça revient.
Puis c'est vrai que d'aller voir notre médecin de famille pour avoir de l'aide, des fois, ça peut prendre du temps avant de voir le médecin de famille. Il y a les programmes d'aide aux employés aussi, où je sais où vous pouvez, si vous en avez un à votre emploi, vous pouvez appeler, c'est confidentiel. Puis il y a certaines heures aussi mises en banque pour un psychologue, par exemple.
Un des problèmes, c'est que les consultations psychologues, thérapeutes ou autres coûte très cher. On me dit 100 $ de l'heure et plus. Donc, il y a le coût aussi, justement, si on n'a pas accès à ce genre de programme-là en entreprise. Il y a quelqu'un qui revenait aussi sur ce que disait Pierre Faubert concernant la vie là, qui est pas facile. Nous sommes une société riche qui nous donne le luxe de nous trouver toutes sortes de problèmes. Et là, on parle vraiment de détresse. Là. C'est plus que des petits
problèmes. Clairement.
Je vous rappelle la ligne d'aide. Si jamais vous êtes dans une mauvaise passe, vous avez besoin... Il y a l'orgueil des fois. Hein. On a besoin de parler, mais on veut pas déranger nécessairement des gens qu'on connaît. 1-866-APPEL, c'est confidentiel. Mm-hmm. Vous allez pouvoir parler avec des gens qui vont prendre le temps de vous écouter. Et si vous voulez nous parler, vous pouvez le faire à Montréal, 514-790-9850. Partout au Québec, 1-866-790-9850 et texto 98985.
Et j'ai envie de dire à l'auditeur qui dit oui, c'est cher les consultations puis tout ça, mais moi, je me suis déjà rendue dans un CLSC. Début vingtaine, ça allait pas bien. Puis j'ai réussi à parler à une travailleuse sociale. J'ai été suivie par cette travailleuse sociale-là pendant plusieurs mois. Puis non, c'était pas une psychologue, mais ça m'a aidé, ça m'a fait du bien. Donc, il y a ça aussi peut-être qui pourrait vous aider.
C'est sûr que la pandémie n'a pas dû aider non plus parce qu'il y a eu beaucoup de demandes. Donc, peut-être que le système, je ne suis pas au courant, mais que le système est débordé. Probablement, en fait.
Probablement. On va discuter maintenant avec Claude qui est au bout du fil. Bonsoir, Claude.
Bonsoir. J'ai aimé que tu dises que tu aimais l'automne. Ça va bien avec ta couleur de cheveux.
Ah, merci.
Bon. C'est un sujet lourd et important. Moi, je ne veux pas exprimer pour diminuer les responsabilités d'un ou de les transférer sur un autre. Mais je veux exprimer quand même quelques constats que j'ai faits avec les années. Moi, j'ai eu mes détresses aussi. Là. Ça va mieux. Mes fragilités me font comprendre que je suis maintenant plus fort parce que je suis plus conscient. Mais je retourne à la base bien simple. Dans le quotidien, quand tu demandes à quelqu'un comment ça va, il y a une seule réponse qui demeure acceptable pour la grande majorité des gens. C'est ça va bien.
Ouais.
Ou c'est bien. Si tu prends une pause pour dire que « Ah non, ça va pas », tu crées un beau malaise, puis ça va pas bien. Là. Si tu t'entraînes dans une mauvaise période, ben, tu te ramasses isolé. Parce que les gens n'aiment pas nécessairement côtoyer quelqu'un qui est dans une détresse psychologique ou en descente. C'est pas évident comme ça. Alors, l'autre constat que j'ai fait souvent, c'est quand tu arrives pour exprimer ta détresse, il y a beaucoup de gens, malheureusement, je rejoins les propos du psychologue qui est là, qui n'ont pas de formation ou d'écoute. Ce qu'ils vont te proposer deux solutions aux autres, mais t'as pas besoin d'entendre ça, là. Les solutions des autres, là, ça n'a pas d'importance. Tu as juste besoin de t'exprimer, de vider l'abcès, de nettoyer un peu, puis de te sentir en confiance. Parce que une affaire qui est importante, moi ça, je l'ai constaté pour moi-même, là, quand tu es en détresse, là, le temps, les priorités, l'hygiène, l'alimentation, il n'y a plus rien de pareil, là. Ça fait quand même que tu auras quelqu'un à votre toi qui va raisonnablement bien, qui essaye de te référer à ce que lui vit, puis comment il s'en est sorti, puis tout ça. C'est pas là que tu es rendu, là. Parce que t'es dans un autre house, t'es ailleurs dans le temps. Puis on a la preuve de ça, là, on s'en aperçoit. Toutes les fois qu'il arrive quelque chose aussi tragique que ce qui s'est passé à Montréal, là, en tout cas. Le premier commentaire que la majorité des gens ont, c'est un commentaire qui est juste, il faut être fou, il ne faut pas être bien. Ben non, ben non. Il n'y a pas personne en bon état de santé mentale qui va faire une chose semblable.
Non, c'est sûr. C'est pas...
Mais sauf qu'il y a toujours, les gens, malheureusement, sont habitués à ne pas se mêler de leurs affaires, ou à se mêler de leurs affaires, dépendant de la perspective qu'on prend. Ils ne décodent pas, puis ils ne veulent pas s'en mêler, puis tout ça. C'est correct qu'on entend tout le temps, c'était quelqu'un de bien correct, bien normal. Sauf dans ce cas-là, là, il y a eu des petits problèmes policiers. Fait que le message que je veux laisser, là, c'est il faut accepter sa vulnérabilité, il faut accepter de parler. Tu sais, comme je regarde juste toi, là, Valérie, là, ce que tu as dit, là, ah, t'as consulté à 20 ans. Est-ce que ça t'a fait du mal de dire ça? Est-ce que tu te sens moins importante ou moins compétente dans ta vie d'avoir affirmé ça? Mais les gens ont des difficultés à le dire, ça.
Je comprends.
Une période, ça a mal été. Bon, moi, j'ai perdu ma première blonde par suicide, puis j'ai passé des années à me chercher, puis à me chercher, puis à me chercher. À un moment donné, autour de 45 ans, je me suis agenouillé, manière de parler, puis j'ai cogné aux bonnes portes, puis j'ai fait une couple de thérapie, puis j'ai su m'entourer d'un paquet de gens différents, parce que souvent, les gens trop proches de nous font partie, hélas, du problème un peu. Parce
ouais, non, c'est ça, c'est ça.
Ça a traversé tranquillement pas vite, ça va mieux, mais sauf que faut pas que je me donne le temps de replonger. Il faut que ça m'ait servi, cette descente-là. Là.
Vous avez raison, Claude, puis je vous remercie de votre appel, d'avoir pris le temps de nous appeler ce soir, puis je sens que vous devez être une bonne oreille, Claude, si on a besoin de parler. Je pense que vous êtes là. Merci de votre commentaire ce soir. On va discuter avec Guy qui est là. Bonsoir, Guy.
Bonsoir, Valérie. Vous allez bien?
Ça va bien, vous?
Oui, est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, je vous entends très bien.
OK. Merci pour votre bonne écoute à vous, d'abord. Vous en avez une bonne. Ceux qui ont parlé avant moi, là, je trouve qu'ils apportent tous des bons points. Moi, là, je voudrais qu'on mette ça clair, une perspective. Si vous en parlez à soir, c'est parce que depuis peut-être 5 ans, au Québec, il y a beaucoup d'hommes qui terminent leur relation de couple de façon violente. Oui. Et c'est vraiment effroyable. Bon, moi, j'ai vécu une séparation. J'ai vécu, étant donné qu'elle, mon ex, elle avait l'aide juridique gratuite, j'ai trouvé ça difficile parce que j'ai pas pu me battre pour voir mes filles plus souvent. Donc, je les avais... Bon, par contre, j'étais enseignant, donc je pouvais l'été les avoir un mois. Mais quand tu accumules un paquet de stress en même temps, tu viens en détresse. Dans le sens que, regardez, j'avais un chalet de maison, j'ai tout perdu. Il a fallu que je vende mon char pour payer les avocats. Je me suis senti jugé par des compagnons de travail, d'autres qui ne me jugeaient pas, abandonné par certains amis. Ça veut dire qu'on te juge. C'est une accumulation de choses qui, au fond, là, font que tu perds tous tes points de repère, presque. Et ce qui m'a aidé à traverser, hein, mes deux filles, qui, au fond, là, on se voyait quand même aux deux fins de semaine, l'été, un mois. Il y a ça. Donc, ça nous prend, à un moment donné, une raison de vivre.
Oui, c'est sûr.
Et aussi, quelque chose qui n'a pas été dit par personne, puis j'ai aucune honte de le dire. J'avais consulté, mais ma meilleure consultation, ça a été une semaine de retraite dans une maison de retraite. Ça s'appelle Agapé Thérapie. Agapé, là, en grec, ça veut dire guérir par l'amour de Dieu. Bon, là, il n'y a aucun là-bas, là, ça coûtait presque gratuit. Là. Je vous dis, c'est pas des gens qui m'ont volé, qui ont profité de moi. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir une vie de foi. Je sais pas si vous comprenez un petit peu. Là.
Oui, je comprends.
Une vie de foi, c'est-à-dire savoir, tu continues, tu travailles pareil, tu peux avoir des problèmes pareils, mais c'est que l'agapé thérapie, elle est jumelée avec la psychologie. Donc, tu étudies toutes les étapes de ta vie, de l'enfance à adulte. Et je vous le dis, on arrive là, à un moment donné, il y a des gens... Bon, qui prie avec nous, ainsi de suite, puis on fait vérité en soi. Ce qui est difficile, là, pour un homme comme pour une femme, mais on dirait que les hommes, ils disjonquent peut-être plus facilement, excusez le terme anglais.
Non,
là,
je comprends.
Mais dans le sens que on peut pas aimer la souffrance. Mais lorsque, pour la première fois de ta vie, que tu es confronté à des souffrances qui te déstabilisent totalement, tu sais, t'es pas habitué, là, c'est que les points de repère, là, qui compare nos points de repère, ben moi, je le sais que ce qui m'a aidé, c'est vraiment de commencer à communier à une vie de foi à l'intérieur de moi. J'ai senti que des gens priaient pour moi.
C'est ça. Tout le monde peut trouver, Guy a fait une semaine de thérapie, lui c'est ce qui l'a aidé. Évidemment, tout le monde peut trouver un moyen, soit un psychologue ou aller chercher de l'aide, que ce soit chez le médecin, mais c'est important d'y aller. Je pense que c'était le message que Guy voulait nous donner ce soir. On s'arrête un instant, évidemment, au retour de la pause, on continue à prendre vos témoignages. Est-ce que vous connaissez des gens en détresse? Qu'est-ce que vous avez fait pour les aider? 514-790-9850, 1-866-790-9850. Et c'est important, Maxime Lachance, je pense, de rappeler les numéros pour les gens qui ont besoin d'aide, qui vivent de la détresse psychologique présentement.
Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de vous confier, simplement parler avec quelqu'un, c'est confidentiel. 1-866-APPEL, c'est partout au Québec, 1-866-APPEL. Vous pouvez nous appeler, nous également, pour jaser. Je pense qu'il reste de la place. Sinon, les textos, 514-790-9850, 1-866-790-9850 et texto 98985.
On va jaser avec Diane qui est là. Bonsoir, Diane.
Bonsoir. Merci d'être là. Merci tellement. Oh mon Dieu. C'est une grosse effort que je fais ce soir parce que personne ne connaît ma vie.
Okay.
Moi, c'est avec mon fils. OK? Puis je sais que ça va m'aider puis je vais aider les autres. Moi, je me suis toujours organisée toute seule. J'ai un fils. Oh mon Dieu, comment je commence? La consommation. Des problèmes de
dépendance.
De consommation. Oui. Puis, en tout cas, je l'ai sorti de thérapie en thérapie. Je l'ai suivi partout. Je l'ai été chercher dans les rues. Mmh. Je l'ai ramené à la maison. On a fait beaucoup de fois, mon Dieu. Mais ça semblait se replacer. Mais il y a des rechutes. Bon, à un moment donné, il faut qu'il s'en aille en détention. Après ça, en thérapie, ça n'a pas marché. Vous connaissez le système sûrement.
Ouais.
Puis je suis convaincue qu'il y a plein de parents qui vivent la même chose que moi. Et moi, je me suis toujours... quand j'ai commencé, quand il était adolescent, il était parti sur le mauvais chemin, cause séparation, tout ça. Mais moi, j'ai toujours été là, je suis encore là aujourd'hui. Je suis rendue une arrière-grand-mère, mais jeune. Qu'est-ce que je voulais vous partager, c'est que à un moment donné, on ne sait plus quoi faire. On cherche les bonnes ressources, on veut les aider, puis tout ça. Bon, moi, on m'avait dit dans le temps, ils appelaient ça tough love. En tout cas, il y en a qui ont connu ça. Moi, j'ai jamais été capable de faire ça. J'ai jamais été capable de fermer la porte
Donc,
mon
vous êtes
fils,
toujours présente et... encore aujourd'hui, Diane. Je m'excuse de vous couper comme ça parce que malheureusement, il nous reste 20 secondes. Je veux dire merci à tous les gens qui ont appelé. Je vois que les lignes sont pleines. C'était la première fois qu'on jasait de détresse psychologique. Sachez que ce ne sera pas la dernière. Je sens que c'est un besoin qu'on a d'en parler. Alors, merci pour vos témoignages. Évidemment, on remet ça pour une autre édition de Parlons-nous à partir de mardi prochain, puisque lundi, il y a du hockey. Mais on va reparler de détresse. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Bonne fin de soirée.